Track in the back, yeah, one time, test exclusive, D Damage, bringing a ruckus to all you whack mothers, yo, lyric, well, I was born to rap to my fall to death. To that day, never stole a step. I'm taking full strides, breaking ground like waking up Satan's sound. Take me down, dig deep into myself till I hit my heart. Up my head, flick a spark, pin the pad, rip it apart. Paper shredder, count on the 20th letter. Capital cross, of course, you can't do it better. When it comes to blasting mine, see me laughing at life. Like your ears were awesome, making my sacrifice. In my afterlife, I'm a method, these seeds of faith. For beast in a cage, and remain unfazed. No scars to show, just vicious balls to flow. Even out, hold my odds till I start to go. All alone in the end zone, spiking the ball.
13h. Cette musique qui tourne et qui tourne et qui tourne, et personne qui l'écoute, et nos vies, qu'est-ce qu'elles coûtent?
RFI Musique.
Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. RFI Midi vous est présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Le tour de l'actualité dans le monde avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux, 2h30 ensemble. Et à la une aujourd'hui, jeudi 9 avril, le Liban, le pays, enterre ses morts après une journée d'horreur hier. Des bombardements israéliens d'une intensité jamais vue depuis le début de la guerre.
C'est un véritable massacre. Il y a des enfants, on ne sait pas à qui ils appartiennent. Ils sont en train de distribuer des photos sur WhatsApp pour demander si vous connaissez cet enfant, qui sont ses parents, etc. Partout, dans toutes les régions libanaises.
254 morts, 1160 blessés, et ces chiffres vont encore s'aggraver car les secouristes fouillent toujours les décombres. Aujourd'hui, nous appellerons notre correspondant à Beyrouth dans une heure. Le Liban doit faire partie du cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l'Iran. Déclaration ces dernières heures des Nations Unies, de Paris, de Londres et du régime iranien qui assure en avoir fait une condition. Le pays rend hommage, lui, à l'ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre par Israël et les États-Unis. Mais si plusieurs figures ont été éliminées, le régime reste bien en place et semble encore en mesure de lancer des missiles dans toute la région. Alors, où en est l'Iran aujourd'hui? Se trouve-t-il effectivement en position de force, comme il le revendique, avant le début de négociations demain? Nous poserons ces questions à notre invité dans un peu plus d'une heure.
RFI Midi.
Au sommaire également, les élections législatives en Hongrie. Ce sera dimanche. Viktor Orban est mal engagé dans les sondages, mais dispose encore de soutien solide dans les petites villes. Reportage dans 10 minutes. On parlera aussi des menaces sur l'environnement en République démocratique du Congo, où la déforestation atteint des niveaux alarmants. On en parle à 12h30, temps universel. Et en Argentine, où le président ne tronçonne pas seulement les dépenses publiques, il attaque aussi l'environnement, les glaciers en l'occurrence, désormais moins protégés pour permettre l'exploitation minière. On en parle dans quelques minutes. Et plus longuement, juste après 13h, temps universel. Et puis les supporters du PSG savourent de nouveau. Leur club semble de retour au sommet. Il l'a montré hier soir, en tout cas face à Liverpool. Victoire 2-0 en quart de finale aller de la Ligue des Champions.
Ouais, très belle soirée. On a vu du beau spectacle, des beaux buts. Ouais, franchement, on a une équipe de rêve et on peut affronter n'importe qui.
Alors n'importe qui, on verra. Il y aura déjà le match retour la semaine prochaine. Mais beaucoup considèrent déjà que Paris ira sûr de sûr en demi-finale. Rencontre avec les supporters dans une vingtaine de minutes et le journal des sports, c'est dans trois quarts d'heure. Vous avez le programme. Bienvenue. Et d'abord le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
En ce deuxième jour de trêve au Moyen-Orient, un calme précaire est observé.
Oui, ce matin, en tout cas, pas de nouveau raid d'envergure d'Israël au Liban. Le Liban qui observe un jour de deuil national au lendemain des frappes qui ont fait, d'après un dernier bilan, vous l'avez dit, plus de 250 morts et plus d'un millier de blessés. Dans le centre de Beyrouth, les dégâts sont considérables et les recherches dans les décombres ne sont pas finies. Les frappes d'hier ont été déclenchées sans avertissement préalable, à un moment où régnait la confusion dans tout le pays quant à savoir si le cessez-le-feu États-Unis-Iran s'appliquait ou non au pays du Cèdre. Écoutons Camille Mourani du Bloc national libanais, petite formation politique de centre droit.
La situation à Beyrouth, elle est horrible. À Beyrouth et dans plusieurs autres régions qui ont subi des frappes israéliennes très intenses. Il y a eu des dizaines de morts et des centaines de blessés, parmi lesquels un grand nombre de civils, ce qui constitue un crime de guerre commis encore une fois contre le Liban par Israël. Il était clair que même s'il y aura un accord de cessez-le-feu en Iran, les frappes israéliennes vont continuer. Nous avons eu un accord de cessez-le-feu en 2024 qui n'a pas été appliqué ni par Israël ni par le Hezbollah. L'État libanais, pendant 15 mois, qui en même temps aurait dû imposer son autorité et sa souveraineté, surtout le territoire libanais, et désarmer le Hezbollah, n'a pas fait ceci, ce qui a encore une fois servi à Israël pour reprendre d'ailleurs ses frappes contre le Liban en déclarant vouloir désarmer le Hezbollah.
Propos recueillis par Nicolas Roca. Nous le disions, actuellement pas de nouveaux raids israéliens signalés au Liban. Le Hezbollah annonce lui avoir lancé des roquettes sur Manara, une localité israélienne du Liban Sud. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou déclare qu'Israël frappera le Hezbollah partout où il le faudra, sous-entendu même au Liban. Qui peut l'arrêter? C'est la question qu'a posée ce matin Clotilde Dumay à Anthony Sanrani, rédacteur en chef adjoint de L'Orient le Jour.
Le seul à pouvoir exercer une réelle influence aujourd'hui sur Israël, c'est Donald Trump. Donald Trump a donné son feu vert. Est-ce qu'il a un délai de 2 semaines pendant les négociations? Est-ce que c'est un feu vert sans délai? On ne le sait pas, mais il a donné en tout cas un feu vert à Benjamin Netanyahou pour continuer sa guerre, pour continuer sa guerre au Liban. Et aujourd'hui, cette guerre, concrètement, elle semble ne pouvoir s'arrêter que de 3 façons. Soit le président américain lui dit « c'est fini », soit les forces israéliennes sont enlisées et au bout d'un moment, cela devient trop coûteux et sont contraintes de se retirer, soit elles obtiennent une victoire militaire assez rapidement.
Anthony Samrani, notre confrère de L'Orient le Jour. Donc les Libanais observent un jour de deuil national. Les appels se multiplient pour intégrer le Liban dans la trêve conclue entre l'Iran et les États-Unis. Dans le journal de 14h, nous serons en direct avec notre correspondant Paul Ralifé. En ce qui concerne d'hypothétiques pourparlers de paix, l'ambassadeur d'Iran à Islamabad a supprimé un message qui avait été envoyé prématurément. Ce message sur X annonçait l'arrivée d'une délégation iranienne ce soir au Pakistan pour des pourparlers avec les États-Unis. Sur les marchés financiers, l'optimisme est quelque peu retombé. Le soulagement qui avait suivi l'annonce d'une trêve hier marque un coup d'arrêt et les prix du pétrole reprennent prennent le chemin de la hausse à près de 100 dollars le baril. Les investisseurs ont, comme les autres, des doutes quant à la solidité du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. La compagnie Air France fait elle aussi preuve de prudence. La suspension de ses vols vers le Moyen-Orient est prolongée jusqu'au 3 mai.
Un succès législatif de plus pour le président en Argentine.
Oui, après les sénateurs en février, ce sont les députés argentins qui viennent d'approuver une réforme qui suscite l'inquiétude des défenseurs de l'environnement. François Damien Bourgerie, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à toutes et tous.
Cette réforme, François Damien, décriée, vise à assouplir la loi protégeant les glaciers et ainsi permettre l'exploitation minière.
Oui, la réforme votée hier par 137 voix contre 111 et 3 abstentions accorde aux provinces plus de pouvoir pour décider de protéger ou non les glaciers. Depuis 2010, les 17 000 glaciers et les zones périglaciaires argentines étaient protégés par la loi. En tant que réserve stratégique en eau, l'exploitation minière y était par conséquent interdite. Un véritable gâchis pour Javier Milei, qui cite souvent avec envie l'exemple du Chili voisin, premier producteur mondial de cuivre. Car les glaciers argentins renferment une multitude de métaux, du cuivre, mais aussi du lithium, de l'or ou encore de l'argent. Selon une projection de la Banque centrale basée sur des estimations du secteur minier, l'Argentine pourrait tripler ses exportations minières d'ici 2030. Alors de leur côté, les opposants à la réforme dénoncent un danger pour l'environnement. Ils font valoir que les glaciers constituent non seulement la plus grande réserve d'eau douce du pays, mais qu'ils nourrissent aussi les nappes phréatiques, jouent un rôle régulateur du climat, ont une influence sur le niveau de la mer et participent à la biodiversité en libérant des nutriments dans les sols.
Merci François-Damien Bourgerie. Et ces nouvelles font un peu penser au manchot empereur, l'oiseau emblématique qui peuple la banquise. Menacé par le changement climatique qui frappe l'Arctique, il fait désormais partie des espèces en danger selon la nouvelle liste établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Également dans l'actualité, un nouveau drame pour les migrants dans la Manche entre côtes anglaises et françaises. Deux hommes et deux femmes sont morts lors d'une tentative de traversée clandestine. 38 autres personnes ont été prises en charge par les secours. Ces migrants avaient tenté de monter à bord d'un taxi-boat et les courants les ont emportés.
En France, les milieux économiques se préparent-ils à une arrivée du Rassemblement national au pouvoir?
Oui, l'hebdomadaire Le Nouvel Obs se fait l'écho cette semaine d'une rencontre aussi discrète qu'inédite entre Marine Le Pen et Bernard Arnault. À Raphaël Delvolvé, c'est un signe parmi d'autres qui ne trompe pas.
Jusqu'à cette semaine, le tout-puissant patron d'LVMH refusait tout contact avec l'extrême droite. Cette première rencontre s'est tenue dans un cadre très secret, un dîner du club Entreprises et Cités dans le célèbre restaurant Drouan à Paris. Autour de la table, outre Bernard Arnault, des dirigeants de Total, Accor, Engie ou encore Renault. Cette rencontre, inconcevable il y a plusieurs années, indique à elle seule qu'une victoire du RN l'an prochain à la présidentielle est désormais sérieusement envisagée. Évidemment, au parti, on y voit l'aboutissement de la normalisation du mouvement engagé il y a plusieurs années, sentiment renforcé par l'autre actualité médiatique de la semaine côté RN, l'officialisation en une de Paris Match de la relation entre Jordan Bardella, le candidat remplaçant de Marine Le Pen en cas de condamnation, avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Ça le consacre comme l'un des personnages politiques les plus importants, jubile un proche du président du RN. Car désormais, lui aussi a droit à une mise en scène photo de sa vie privée, un grand classique pour tout prétendant à l'Élysée, dans un journal Paris Match, détenu d'ailleurs par Bernard Arnault.
Raphaël Delvolvé du service politique. La possibilité d'une guerre ouverte avec la Russie reste ma préoccupation première. Déclaration du général Fabien Mandon, chef d'état-major des armées françaises. Il l'a dit aux députés de la commission de la défense. C'était lors d'une audition consacrée à l'augmentation du budget des armées d'ici à 2030. Ce général avait déjà mis en garde contre le risque d'un choc dans 3 ou 4 ans, déclenchant un débat en France.
Près d'un Français sur deux a déjà été victime de discrimination raciale.
Oui, c'est ce qui ressort d'un vaste sondage réalisé par l'IFOP et la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Les plus concernés sont les personnes perçues comme noires, arabes et est-asiatiques, mais aussi celles de confession juive et musulmane. Cette enquête, Amélie Beaucourt, met en évidence un racisme toujours prégnant dans la société française, y compris dans ses institutions.
Du voisinage jusque dans les commissariats de police, les discriminations raciales mises en évidence dans ce sondage s'expriment dans tous les lieux. Léo Major, chargé d'études à l'IFOP.
Quand on vous dit que vous allez changer votre enfant d'école parce qu'il subit des discriminations, c'est quand même un changement assez radical. Il n'y a pas de répit, en fait, pour les victimes de racisme.
L'école, justement, est l'institution qui revient le plus dans la liste des lieux de discrimination. C'est l'un des points clés du sondage.
Ça veut dire que le berceau de nos valeurs, de ce qui construit notre société, est imbibé de ces problèmes-là. Et s'il n'est pas systémique, il est en tout cas très répandu et touche systématiquement les minorités.
60% des répondants perçus comme noirs, arabes ou de confession musulmane ont vécu des comportements racistes ces 5 dernières années.
C'est pas dans les années 90, ni dans les années 2000. C'était évidemment à cette époque-là, mais c'était aussi à notre époque. Mais sur les quelques indicateurs qu'on a réussi à reproduire d'autres études, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de baisse.
D'après son analyse, le racisme en France est donc une expérience massive plutôt qu'une exception. Chez les personnes qui ne sont pas catholiques ou perçues comme blanches, elle est même quotidienne.
Amélie Beaucourt, c'est la fin du journal. Mais l'information continue avec vous, Anne.
Gilles Moreau pour le journal. Et tout de suite, comme chaque jour, c'est la fabrique du monde. Bonjour Guillaume Nodin.
Bonjour.
Nous sommes un peu plus de 24 heures après le début du cessez-le-feu de 2 semaines annoncé par les États-Unis et l'Iran. Chacun explique être sorti vainqueur de ce mois et demi de bombardement. Encore faut-il convaincre.
Oui, parce que si le cessez-le-feu est le bienvenu pour tout le monde et va permettre à chacun de reprendre son souffle et de se réorganiser en cas de rupture de l'accord et de reprise du conflit, c'est le moment du service après-vente aux opinions publiques. C'est évidemment plus simple pour le régime iranien et les gardiens de la révolution qui tiennent encore le pays et n'ont jamais relâché la répression. Aucune voix discordante ne peut s'y exprimer. C'est peut-être un peu plus compliqué pour les États-Unis et Israël qui font face à des échéances électorales dans 6 à 7 mois.
C'est particulièrement compliqué en Israël pour Benjamin Netanyahou.
Oui, parce que le Premier ministre israélien avait défini des objectifs clairs qui ne sont donc clairement pas atteints. Changement de régime, destruction des capacités balistiques de l'Iran, fin du programme nucléaire iranien. Rien n'est fait. Le chef de l'opposition de gauche, Yair Lapid, dénonce un échec stratégique majeur et il souligne qu'Israël, qui n'a jamais sous-traité sa sécurité à personne, s'est rangé derrière la décision de Donald Trump plusieurs heures après qu'elle a été prise. Même son de cloche depuis plusieurs jours chez l'opposant de droite Naftali Bennett, pour qui l'armée israélienne ne gagne nulle part. La continuation particulièrement meurtrière de la guerre au Liban, au-delà des objectifs sécuritaires affichés, a peut-être aussi un objectif de maintien d'une certaine unité politique.
Et ça n'est pas plus simple pour Donald Trump aux États-Unis.
Oui, là, le problème est différent. L'administration américaine n'avait pas défini d'objectifs clairs et ils ont changé de jour en jour. Difficile de dire donc s'ils ont été atteints. Le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a beau proclamer une victoire historique et écrasante. Il ajoute que les forces américaines vont rester sur place le temps du cessez-le-feu, ce qui indique que rien n'est encore réglé et que tout pourrait reprendre, notamment en cas de fermeture du détroit d'Ormuz, contrôlé par l'Iran, qui dispose donc d'un nœud coulant sur l'économie mondiale et les prix du pétrole. Cela fait très mal au portefeuille des Américains et à la popularité du président en année électorale.
Et c'est d'autant plus compliqué que les derniers jours ont soulevé de nouvelles questions.
Oui, les sorties de Donald Trump précédant le cessez-le-feu sur la réouverture du putain de Détroit, je cite, en traitant de tarés les dirigeants iraniens avant de menacer de détruire une civilisation entière, ont fait ressurgir les interrogations publiques et anciennes sur sa santé mentale. Dans un pays marqué par le déclin de Joe Biden, la question de la progression d'une forme de démence est clairement posée. Jusque dans son propre camp, son ancien allié répudié, Marjorie Taylor Greene, dit même qu'il est devenu fou. Des élus démocrates appellent désormais à sa destitution ou à faire jouer le 25e amendement, celui qui prévoit le remplacement du président en cas d'incapacité. Dans les conditions politiques actuelles, c'est très peu probable, au moins jusqu'aux élections de mi-mandat, en admettant que celle-ci et les décomptes se déroulent normalement, ce qui n'est pas gagné.
Guillaume Nodin pour la Fabrique du Monde. À demain.
RFI, l'Europe à midi.
J-3 avant les élections législatives en Hongrie, celle qui pourrait mettre fin à 16 ans de pouvoir Orban. Parce
vous
que le Premier ministre
HBR
est donné perdant par
99.1.
I'm ready. close your ear and the food you eat. Man, how life was going sweet. You went to school and you learned a lot since you was a tiny tot. So please do not forget, I say, how all these things you come to get. Since you was in your cradle, your mother and your father was responsible. Remember when you couldn't even walk. Remember when you couldn't even talk. I say, remember who used to wash your clothes for you, who used to wipe your nose for you, who used to hug and kiss you. I say, remember who used to change your diaper, who used to find your supper. Don't forget, was your mother and father. Remember when things was going fine, with not a worry on your mind. And when things wasn't so good with you, who was the first ones you would run to? So how could you forget? And up to now you can't pay back yet. Try from now till forever, you could never pay back your mother and father. Remember when you couldn't even walk. Remember when you couldn't even talk. I say, remember who used to wash your clothes for you, who used to wipe your nose for you, who used to hug and kiss you. I say, remember who used to change your diaper, who used to find your supper. Don't forget, was your mother and father. It have some fathers ain't good at all. They never mind you when you was small. But never mind how your father bad. You shouldn't take it on too hard. Try to understand what would be your position. For if it wasn't for your daddy, you would never, never have a dear mommy. Remember when you couldn't even walk. Remember when you couldn't even talk. I say, remember who used to wash your clothes for you, who used to wipe your nose for you, who used to hug and kiss you. I say, remember who used to change your diaper, who used to find your supper. Don't forget, was your mother and father.
Yeah. 99.
Okay.